La marche du monde.
Oncle Mal, merci de nous recevoir chez vous à Hanoï. Je vois qu'au-dessus de votre canapé, il y a une carte. Montrez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah oui, vous prenez votre baguette d'instituteur pour me la décrire.
Vous voyez ici l'ensemble de la vallée de Dien Bien Phu. La longueur de cette vallée, c'est environ 18 km. Les largeurs varient entre 2 et 8 km. Les Français étaient dans trois zones différentes. Au nord, vous avez trois collines, trois positions importantes. Béatrice, Gabriel et Anne-Marie. Les Français se concentraient surtout dans la zone centrale de la vallée. Cette zone même est divisée en sous-positions divisées par le fleuve Namun. Vous avez les collines Dominique, un peu au nord, les collines Eliane, un peu au sud de cette zone centrale, et de l'autre côté, il y a d'autres collines qui portaient aussi des noms de femmes.
Oncle Mai, justement, les collines portent des noms de femmes. Donc, est-ce que c'est une carte que vous avez réussi à voler à l'ennemi? Parce que les Vietnamiens ne donnent pas des prénoms de femmes aux collines.
Exactement, c'est une carte française.
Est-ce que ça veut dire que c'est un butin de guerre? C'est une carte que vous avez volée aux Français?
Non, je suis incapable de l'avoir volée. C'est la photocopie d'une carte que d'autres ont pu récupérer.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Monsieur Mai dans La marche du monde. Il avait 17 ans à Dien Bien Phu. Tout comme Monsieur Cui, son expérience de la guerre d'Indochine remonte à l'enfance, juste après 1945, quand Ho Chi Minh lance son appel à la résistance.
Le premier jour de guerre pour moi, c'est le 19 décembre 1946, le jour du déclenchement de la résistance vietnamienne contre les Français.
Monsieur Cui, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est pour vous la différence entre la résistance et puis cette bataille de Dien Bien Phu?
Moi, je vois la bataille de Dien Bien Phu comme le dernier rendez-vous de cette résistance contre les Français, à cause de son ampleur, à cause de son importance. Quand nous étions à Dien Bien Phu, nous avions confiance en la victoire, alors que quelques mois auparavant, nous avions échoué à Na San, lors de l'attaque d'un bataillon français.
Le Viet Minh a en effet tiré les leçons de Na San, et le général Giap va finalement revoir sa stratégie. Après avoir envisagé une attaque éclair pour une victoire rapide, ce sera une attaque sûre pour une progression sûre. Giap prend son temps. Il faudra 3 mois pour lancer l'assaut sur le camp français. En attendant, M. Nam participe aux diversions menées dans le Haut Laos.
Aller au Laos, c'était une surprise totale pour nous, puisque nous étions prêts à attaquer le camp retranché et à le vaincre en 2 jours et 3 nuits.
Que deviez-vous faire? Quel était votre rôle? C'était une ruse?
Les Français ne savaient rien. Nous avons traversé une grande montagne qui divisait le Laos et le Vietnam. Mais nous ne savions pas où aller, ni pour quelle raison. Nous n'avions aucune carte. Heureusement, les Laotiens qui habitaient près de la frontière parlaient vietnamien. Donc, ils nous ont aidés à trouver notre chemin quand on s'est perdu. Tout au long de la route vers Luang Prabang, nous n'avons cessé de mener des combats contre les Français. Nous étions plusieurs compagnies à nous relayer. Quand nous sommes arrivés, c'était aux alentours du nouvel an lunaire. On m'a chargé de faire une diversion. J'avais avec moi un poste de communication au sein d'une unité où les hommes me protégeaient.
Donc vous faites aussi des transmissions radio. À qui envoyez-vous les messages et quels étaient ces messages?
En fait, je jouais le rôle du commandant de la division. Je faisais semblant d'être très occupé. Dans mes rapports, je devais montrer que j'étais en difficulté, que mes unités avaient du mal à progresser, que nous avions du mal à trouver du riz et que nous avions des problèmes de santé, des problèmes d'armement. C'était le type d'échange que nous avions entre le commandant en chef et moi.
Donc votre rôle, c'était bien de tromper les Français.
Je crois que la ruse a fonctionné car les Français pensaient que les Vietnamiens n'attaqueraient pas. Je suis rentré à Dien Bien Phu seulement après la chute des postes français, Gabriel et Béatrice.
La marche du monde est au Vietnam à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu la bataille de Dien Bien Phu. Une bataille que le général Giap a voulu décisive. Après avoir positionné ses unités tout autour du camp retranché du général français De Castres et après avoir réinstallé son artillerie, Giap donne enfin l'ordre d'attaquer. Nous sommes le 13 mars 1954. Vous avez 20 ans, Monsieur Quy. Vous vivez cette bataille finale de Dien Bien Phu et vous évoquez pour nous votre combat le plus violent.
Le bruit des armes effaçait tout autre bruit. Je n'entendais pas mes camarades, pas de voix humaine. Il y avait un slogan qu'on a prononcé à ce moment-là, c'était « Pour les champs, pour les rizières, pour les paysans ». Et en entendant ça, beaucoup de soldats se mettaient à courir en avant.
Quels étaient les ordres de vos officiers quand vous arriviez à les entendre? Est-ce que c'était un moment aussi où on en faisait appel à votre désir de vengeance? Est-ce que c'était enfin l'occasion de se venger?
Les ordres de mes supérieurs et les encouragements que nous nous donnions entre soldats, c'était la même chose. C'était se venger des camarades tombés, se battre pour obtenir une rizière.
Monsieur Son, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la violence de la bataille de Dien Bien Phu?
Les combats sur Kélian 2, c'est là les combats les plus acharnés. Les combats jour et nuit, et parfois de corps à corps, parce que nous étions très proches l'un de l'autre, les Vietnamiens et les Français. Nos tranchées, et les tranchées françaises, à 20 mètres, presque communicantes, presque communicantes les tranchées. La colline, il y en a deux, à un. La superficie, plus de 2000 mètres carrés. Là, de notre côté, de 2 à 3000 morts et blessés. Sur 2000 mètres carrés. Imaginez.
Qu'est-ce que vous voyez autour de vous lorsque vous repensez à cette situation?
La colline a deux petits sommets. Le sommet plus haut, occupé par les Français, avec une fortification à moitié enterrée. Et nous occupions le sommet plus bas. Ce n'est pas favorable du tout pour la défense et pour l'attaque. Et les deux petits sommets sont à 100 mètres l'un de l'autre. Et les tranchées partout, les barbelés, et nous avons des pertes humaines inimaginables de notre côté. Des combats comme ça ont laissé dans les tranchées des cadavres et des blessés, pas encore évacués, parce que nous ne pouvions pas évacuer tous les blessés. Et c'était très, très douloureux, parce qu'on était obligés, en se déplaçant dans les tranchées, de piétiner les cadavres de nos frères d'armes. Et quand on passait dans les tranchées adversaires, sur les cadavres et les blessés des Français.
Est-ce que vous entendiez les soldats français parfois crier ou pleurer ou
crier, gémir et pleurer et crier? Et j'ai été témoin de quelques cas où les soldats français, avant de s'éteindre, maman, ou bien en prénom féminin. Et c'était très émouvant, très douloureux. Ça me faisait mal à mon cœur. Très, très mal à mon cœur.
Les enfants de Dien Bien Phu n'ont connu que la guerre et la pauvreté. Mais aux côtés des paysans et des ouvriers, une autre jeunesse issue de la noblesse a trouvé sa place. 9 années de révolution armée ont transformé Madame Thuan en parfaite infirmière.
L'hôpital militaire à cette époque-là, c'était différents abris bien consolidés, moitié sous-sol. Nous devrions nous-mêmes creuser ces abris et trouver du feuillage pour camoufler ces abris.
Quand on est dans une situation de guerre, on n'a pas à disposition tous les médicaments et tous les produits comme en temps de paix. Comment faites-vous justement, par exemple, pour les anesthésies, pour les opérations des blessés du champ de bataille?
Notre unité était parmi les plus ravitaillées en équipement de soins. La guerre était tellement violente et longue qu'au fur et à mesure, les équipements nous manquaient. Pour les opérations lourdes, pour faire l'anesthésie, il y avait des masques sur le visage des gens. Nous avons utilisé de l'éther et de
chloroforme
éther pour endormir les gens.
Quelles étaient les blessures spécifiques justement à Dien Bien Phu?
Les plus souvent, ce sont des blessures à la tête, des blessures sur la poitrine ou l'abdomen. À cette époque-là, nous n'avions ni les moyens ni la connaissance nécessaire sur place pour pouvoir procéder à des opérations pour les soigner. Les blessés à la tête, la nuit souvent, ils faisaient des cauchemars. Ils criaient et des fois, ils étaient pris par des crises d'apoplexie. Il nous est arrivé de n'avoir rien du tout pour des opérations lourdes, des blessés graves, très très courageux. Nous ont dit, allez-y, faites votre opération, je peux supporter la douleur. Donc nous avons procédé à l'opération et nous avons dû aussi chanter pour... voilà.
C'est-à-dire, racontez-moi ça.
Il y avait plein de chansons à cette époque-là pour encourager les soldats, pour nous encourager. Des chansons qui disaient « Nous allons là où il y a encore l'ennemi » ou d'autres chansons qui font penser à la victoire finale et au moment où nous pourrons revenir au village natal. Tout ça pour aider les gens à penser à l'avenir. Nous allons gagner.
Monsieur Son, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant cette longue bataille? À quoi vous vous êtes accroché, vous?
Moi et mes compagnons d'armes étaient des vrais patriotes. Nous avons pu tenir ferme grâce à l'amour de la patrie. Et c'est très simple et très clair pour nous. En 1949, immédiatement après mon baccalauréat, je me suis engagé dans l'armée populaire pour combattre. Et j'ai été obligé de tricher sur mon âge pour pouvoir m'engager. Imaginez, j'avais 17 ans et j'ai déclaré que j'ai 18 ans révolus pour qu'on me prenne dans l'armée volontaire. Et vous pouvez noter que le service militaire obligatoire, c'était seulement depuis 1958. C'est-à-dire depuis 1945 jusqu'à 1958, l'armée populaire du Vietnam ne comprenait que des volontaires.
Déterminés, les 51 000 Vietnamiens disposent d'une puissante artillerie, tandis que les 12 000 hommes du camp retranché français ont encore une base et un appui aérien. Grâce au renfort de 3 000 parachutistes, le général De Castries va réussir à tenir près de 2 mois. Des deux côtés, Français et Vietnamiens vivent un enfer. Écoutez Monsieur Quy, il participe à l'assaut final.
Quand nous avons reçu l'ordre d'avancer, j'ai amené mon unité à la position 17 de l'ennemi. Nous étions à une quinzaine de mètres de cette position. Nous sommes arrivés intacts et j'étais très content de cela. L'autre camp déclenchait des dynamites. Je me suis dit, comme je suis chef du groupe, il faut que je fasse quelque chose. J'ai demandé à mon voisin, qui s'appelle Nchi, de me donner son pain qui pesait 15 kilos.
15 kilos de dynamite.
J'ai pris ce pain d'explosif de 15 kilos et j'ai couru vers la position 17 ennemi. J'ai découvert une brèche et au même moment, il y a eu des tirs de mitraillette. J'ai reçu en pleine figure ces tirs-là. Je sais que j'ai été blessé, mais j'ai eu quand même le temps de déclencher l'explosif. Nous avions fait exprès de laisser une mèche de 3 cm seulement. Il fallait 6 secondes pour que ça explose. Je me suis retourné et au bout de 5 ou 6 mètres seulement, j'ai entendu un énorme bruit, j'ai été projeté en l'air et quand je suis tombé, je sentais que mon sang coulait partout et après, j'ai perdu connaissance.
60 ans après, Monsieur Quy évoque la conviction avec laquelle il s'est battu à Dien Bien Phu, avec beaucoup de précision, mais aussi de la douceur et de l'humilité. Sa parole contraste avec le discours héroïque diffusé par le musée de l'armée à Hanoï.
À 15h du 7 mai, nos troupes déclenchent l'offensive générale suivant des directions est et ouest. À 17h30, le général de Tess et tout son état-major sont capturés vivants. Le drapeau est planté au fait du poste de commandement du camp. À Isabelle, les ennemis cherchent des moyens de se retirer au Haut-Laos, mais ils sont tous arrêtés et capturés vivants. La campagne historique de Dien Bien Phu s'est clôturée à 24h du 7 mai 1954.
Oncle Mai, il y a ce mythe magnifique de ce drapeau planté au sommet du camp français. Alors, c'est un mythe ou c'est une réalité ?
Pour moi, le drapeau, c'était plus tard, lors du tournage du documentaire. Il n'y avait pas de drapeau le jour de la victoire sur le QG du commandement français. Parce que vers 17h30, le 7 mai 1954, lors de l'assaut final, il y a eu des unités de la division 312 qui ont pu approcher le QG de De Castries. Par surprise, parce qu'ils venaient de loin, de Béatrice. Ils ont traversé le fleuve Namoun. Je pense que le drapeau, c'était beaucoup plus tard.
Oncle Mai, est-ce que vous-même, vous avez été blessé physiquement lors de cette dernière bataille ?
J'ai été blessé, mais pas lors du combat. J'ai été blessé après la victoire. J'ai marché trop vite et je me suis pris les pieds dans des barbelés. Donc j'ai été hospitalisé quelques semaines.
Oncle Mai, à quel moment vous avez compris que c'était la victoire et à quel moment vous avez compris que c'était la victoire de la guerre ?
Bây giờ thì phải nói rằng là lúc bây giờ thì không cần ai phổ biến cũng biết là chiến thắng rồi.
Je crois que c'est vers 8 heures du matin, le 7 mai 1954, que toute la région d'Elian a été aux mains du Viet Minh. Donc dès le matin du 7 mai, pour nous, cette région était libérée. Plus tard, l'après-midi, nous avons vu des soldats français qui traversaient un pont sur le fleuve Namoun avec des morceaux de parachute blanc. On n'avait pas reçu de message des supérieurs, mais j'ai su à ce moment-là que c'était la victoire.
Qu'avez-vous ressenti dans votre cœur? Vous êtes un jeune homme, rappelez-nous quel âge vous avez et ce que vous ressentez.
Le 7 mai, je venais d'avoir 18 ans et quelques semaines. Pendant longtemps, nous étions dans des abris souterrains. Et là, on ne se cachait plus, on était dehors, on voyait tout le monde. Donc c'était quelque chose de très spécial. On ressentait tous des émotions très fortes. Beaucoup ont applaudi ou ri, mais beaucoup ont pleuré aussi. Parce que nous avons pensé à nos amis disparus lors des combats.
À Dien Bien Phu, le bilan humain est très lourd. La moitié des combattants vietnamiens seraient morts ou blessés. Et du côté français, 10 000 hommes sont faits prisonniers, ce qui correspond à 2/3 des effectifs. Monsieur Nam, la bataille de Dien Bien Phu a été d'une violence extrême. Est-ce que vous vous attendiez à ça?
C'est la guerre. Les violences étaient évidentes. La mort côtoyait la vie à tout instant. Mais c'est seulement après la guerre que j'y ai beaucoup pensé. Bien sûr, on parle de victoire, mais moi, j'ai pensé au sacrifice que ça représente. Tous ces morts et ces blessés lors de la bataille, je dirais que c'est le quotidien de la guerre. Pour nous, c'était un devoir de nous battre pour notre indépendance. Mais le jour de la victoire, je suis sorti des tranchées. Je me souviens, la terre était très aride. Et moi, j'ai lu un poème en pensant à ma mère.
Vous vous souvenez de ce poème?
Mẹ ơi, đừng khóc làm gì. Vui lên, con trẻ ra đi ấm lòng. Mẹ già, số kiếp long đong, 60 tuổi lẻ vẫn không an nhàn. Mẹ tôi, nước mắt chứa chan, lặng nhìn con trẻ lên đàng chiến chinh. 8 năm xa khuất bóng hình. Mẹ tôi còn sống hay thành người xưa? Đến bây giờ, đã đến giờ, chiến chinh sẽ tắt, bóng cờ ngập sao. Tôi về sau lũy che cao.
Je voulais lui dire que je reviendrai très vite, que j'allais la serrer dans mes bras, que je reviendrai au pays natal, qu'il y avait des milliers et des milliers de morts et que les sacrifices étaient des deux côtés. Mais moi, je serai près d'elle. Ce poème, je l'ai fait le jour même de la chute de Dien Bien Phu. Je voulais parler à ma mère. Ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vue. Je ne savais même pas si elle était encore vivante. Elle avait 60 ans.
La guerre est finie. Et finalement, sur les 10 000 Français faits prisonniers, il n'en reviendra que 3 300, totalement épuisés et affamés. Mais n'oublions pas que dans les troupes françaises se trouvaient des soldats indochinois et africains. Que sont-ils devenus? La question reste posée. Ce qui est sûr, c'est que la défaite française à Dien Bien Phu a réveillé les peuples colonisés. Monsieur Son, quelques mois après la victoire de l'armée populaire vietnamienne à Dien Bien Phu, il y a en Algérie le début de la guerre d'indépendance des Algériens. Et certains Algériens était venu ici, en Indochine, dans les rangs des troupes françaises, pour se battre contre vous. C'est pour ça que vous m'avez parlé d'une guerre contagieuse?
Révolution contagieuse. Je trouvais nettement que les soldats d'origine africaine, dans le corps insurgé français, originaires des pays coloniaux français, étaient très impressionnés par l'armée populaire du Vietnam. Très impressionnés. Parce qu'avant, ils pensaient que c'était une armée communiste, rebelle, ce sont des pirates. Et vous savez, l'image du communiste, avant, c'était l'image d'un assassin avec un couteau entre les dents. Et puis, les Viet Minh coupaient le nez, les oreilles des prisonniers, ou bien tuaient, maltraitaient. Mais quand les Africains sont faits prisonniers, là, ils commencent à comprendre. Qu'est-ce que c'est la révolution? Et l'armée vietnamienne est vraiment une armée patriotique, une armée du peuple qui combat pour l'indépendance et la liberté.
Les enfants de Dien Bien Phu, deuxième épisode. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec la complicité de notre stagiaire Philippine Veil. Un grand merci à Dao Tha Nguyen pour la qualité de ses traductions. Je vous rappelle son livre, Dien Bien Phu vu d'en face, c'est aux éditions Nouveau Monde. N'oubliez pas de vous exprimer sur Facebook, réagissez, marche.monde@rfi.fr, podcastez, cette émission c'est la vôtre.